Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans cette émission. La campagne de Vivre Ensemble qui va débuter dans quelques semaines traitera des personnes âgées et plus particulièrement de la pauvreté des personnes âgées. Alors aujourd'hui, on va développer avec notre invité un thème qui est celui de la retraite. C'est un thème qui est assez chaud dans le monde politique, qui inquiète beaucoup d'économistes et d'hommes politiques. Pour en parler aujourd'hui, nous avons Jean-Yves Buron. Bonjour Jean-Yves. Je rappelle que vous êtes, parce que vous êtes déjà venu dans cette émission, vous êtes coordinateur régional de Vivre Ensemble et Entraide des Fraternités à Liège. Et régulièrement, vous approfondissez un sujet dans une analyse. Aujourd'hui, c'est donc ce thème des retraites. Alors, il y a une expression qui vous a un petit peu heurté, et surtout la définition de cette expression, c'est le vieillissement actif. Alors, pourquoi est-ce que ça a chopé dans votre tête sur ce mot-là, cette expression-là ?
Ben, disons que le vieillissement actif, on en parle beaucoup, surtout dans les sphères politiques pour l'instant, notamment au niveau de l'Union européenne, parce que bon, il y a un constat qui s'impose, c'est il y a de plus en plus de personnes âgées, de seniors dans la population, que ce soit en Belgique ou en Europe. Hein, on dit en 1920, les plus de 60 ans représentaient 10% de la population. En 2010, ils représentaient 24% de la population, et on dit même qu'en 2050, ce serait plus de 30%. Alors, ça c'est un constat, mais de ce constat découlent différentes choses, et notamment ce vieillissement actif qui est mis en avant par l'Union européenne.
Comme une solution finalement.
Comme une solution, oui, comme un remède. Et un remède à quoi ? Ben, justement au vieillissement de la population et aux défis économiques et sociaux de l'Union européenne. Et donc, pour l'Union européenne, le vieillissement actif constitue, on va dire, une stratégie pour relancer la croissance, l'emploi. Et donc, c'est cet aspect de lien entre le vieillissement de la population et le marché du travail, l'activité économique, qui fait un peu peur, parce que le vieillissement de la population et la vieillesse, c'est bien plus que ça.
Et la question fondamentale là-dedans, c'est comment va-t-on payer les retraites dans l'avenir, puisque bientôt, il y aura plus de personnes à la retraite que de personnes qui travaillent. Donc l'Union européenne, comment est-ce qu'elle répond à ça en demandant aux personnes âgées de rester actives le plus longtemps possible?
Voilà, oui. Donc l'Union européenne dit que les États membres doivent mettre en œuvre des politiques active en matière de vieillissement qui décourage le recours au régime de retraite anticipé et qui vise à favoriser le maintien en poste et la réintégration des travailleurs âgés. Et elle demande donc que les seniors restent actifs, travaillent mais au niveau travail salarié et restent disponibles sur le marché du travail.
Donc c'est une vision très, très réductrice finalement de ce qu'on appelle être une personne âgée active.
Voilà, c'est une vision utilitariste et c'est surtout l'Union européenne ne voit le vieillissement qu'en termes de problèmes, en termes économiques, en termes de chocs, de dépendance entre les générations.
Oui, et ça contredit un petit peu l'idée aussi que à certaines personnes, certains travailleurs plus âgés, on leur dit place aux jeunes, prenez votre retraite plus tôt parce qu'il y a des jeunes qui attendent votre emploi. Donc là maintenant c'est travailler plus longtemps. Alors bon, c'est donc cet angle économique qui est privilégié. Est-ce que c'est vraiment important de garder tous ces gens dans l'activité rémunérée sur le marché du travail pour sauver l'économie, entre guillemets ? Est-ce que les personnes âgées portent vraiment cette responsabilité de l'avenir économique de l'Union européenne ?
D'abord, le concept de vieillissement actif est remis en cause par d'autres institutions et des associations, ça c'est une chose. Et puis aujourd'hui, il y a aussi des économistes qui relativisent évidemment l'impact du vieillissement de la population sur l'économie. Et aujourd'hui, il y a aussi une critique de dire il n'y a pas de fatalité budgétaire le vieillissement de la population et le choc des générations est un peu une construction fantasmée qui nourrit les projets néolibéraux qu'on voit surtout en œuvre au niveau de l'Union européenne aujourd'hui.
D'accord, vous l'avez dit, tout le monde ne partage pas cette vision très économiste de la retraite. L'OMS, qui est aussi une grosse organisation, donc l'Organisation mondiale de la santé, voit les choses un peu différemment.
Oui, et heureusement. Et l'OMS dit que si l'on veut que le vieillissement soit quelque chose de positif, il faut aussi qu'une vie plus longue s'accompagne de possibilités d'être en bonne santé, de pouvoir participer et d'être en sécurité. L'Organisation mondiale de la santé parle de vieillir en restant actif, et justement les trois ingrédients fondamentaux sont donc la santé, la participation et la sécurité, parce qu'il faut que les personnes qui vieillissent aient encore le droit de choisir dans leur vie, et aussi aient tout simplement des droits. Et donc là on a une vision du vieillissement qui est plus englobant, qui prend un peu toutes les dimensions de la personne en compte, et l'OMS le dit, ça ne doit pas seulement être économique, mais ça doit être aussi culturel, citoyen, social. Il y a une vraie place pour les personnes qui vieillissent dans notre société.
Mmh. Oui, parce qu'on dit que les personnes âgées constituent un poids, un danger, mais il y a une catégorie de la population plus âgée qui est aussi source de revenus et de profits pour les entreprises, par exemple.
Évidemment. Évidemment, et alors c'est ce que certaines associations mettent en avant. On parle toujours du vieillissement en termes de coûts, mais il faut dire aussi que c'est ce qui va créer beaucoup d'activités, notamment dans le domaine des services et des soins à la personne. Et donc ça, c'est aussi une opportunité de créer de l'emploi. Et donc, il faut toujours relativiser quand on parle de coûts à ce niveau-là.
Mmh. On va revenir sur tout ça après la première pause musicale. Je vous propose d'écouter Benabar, Quatre murs et toi.
Un terrain vague de vagues clôtures, un couple divague sur la maison future. On s'endette pour 30 ans, ce pavillon sera le nôtre et celui de nos enfants corrige la femme enceinte. Les travaux sont finis, du moins le gros œuf, ça sent le plâtre et l'enduit et la poussière toute neuve. Le plâtre et l'enduit et la poussière toute neuve. Des ampoules à nu pendent des murs du plafond. Le bébé est né, il joue dans le salon. On ajoute à l'étage une chambre de plus. Un petit frère est prévu pour l'automne. Dans le jardin, les arbres aussi grandissent. On pourra y faire un jour une cabane. On pourra y faire un jour une cabane. Les enfants ont poussé, ils sont trois maintenant, on remplit sans se douter le grenier doucement. Le grand habite le garage pour être indépendant, la cabane, c'est dommage, est à l'abandon. Monsieur rêverait de creuser une cave à vin, madame préférerait une deuxième salle de bain. Ce sera une deuxième salle de bain. Les enfants vont et viennent chargés de linge sale, ça devient un hôtel, la maison familiale. On a fait un bureau dans la petite pièce d'en haut et des chambres d'amis, les enfants sont partis. Ils ont quitté le nid sans le savoir vraiment, petit à petit, et vêtements par vêtements. Petit à petit, et vêtements par vêtements. Ils habitent à Paris, des apparts sans espace, alors qu'ici, il y a trop de place. On va poser, tu sais, des stores électriques. C'est un peu laid, c'est vrai, mais c'est plus pratique. La maison somnole comme un chat fatigué. Dans son ventre ronronne la machine à laver. Dans son ventre ronronne la machine à laver. Les petits enfants espérés apparaissent. Dans le frigo, on remet des glaces. La cabane du jardin trouve une deuxième jeunesse, c'est le consulat que rouvrent les gosses. Le grenier sans bataille livre ses trésors, ses panoplies de cow-boys aux petits ambassadeurs qui colonisent pour la dernière fois la modeste terre promise, quatre murs et un toit. Cette maison est en vente, comme vous le savez, je me présente, agent immobilier. Je dois vous prévenir, si vous voulez l'acheter, je préfère vous le dire, cette maison est hantée. Ne soyez pas monsieur, n'ayez crainte madame, c'est hanté c'est vrai, mais de gentils fantômes, de monstres et de dragons, que les gamins savent voir, de pleurs et de bagarres, et de copieux 4 heures. Fini tes devoirs, il est trop lourd mon cartable, laisse tranquille ton frère. Les enfants à table, écoutez la musique, est-ce que vous l'entendez? Écoutez la musique, est-ce que vous l'entendez? Écoutez la musique, est-ce que vous l'entendez?
C'était Benabar et Quatre murs et un toit. On revient donc à ce thème du vieillissement actif avec Jean-Yves Buron, notre invité. On disait tout à l'heure que la Commission européenne avait sa façon de voir les choses, de voir le vieillissement actif comme quelque chose de très économique. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui élargit un petit peu à la santé, à la sécurité, à la participation citoyenne. Mais le monde associatif a aussi son mot à dire et son avis sur la question, Jean-Yves.
Oui, tout à fait. Et Courant d'âge, qui est une coupole qui regroupe 26 associations et institutions qui œuvrent pour plus de solidarité entre les générations, se positionne et regrette évidemment la vision de l'Union européenne. Mmh. Et elle dit que non seulement c'est une vision restrictive, mais malheureusement aussi inéquitable, puisque ce concept de vieillissement actif ne s'adresse principalement en fait qu'à un type de la population, à savoir la population active, celle qui a les moyens de travailler plus tard, celle qui
est en état de travailler plus tard aussi.
Voilà, c'est ça. Qui peut le faire, qui est en état.
En bonne santé.
Voilà. Et qui a les moyens financiers, la santé. Et donc, ça ferait un petit peu la part belle à un type de personne âgée qu'ils appellent les bons vieux, mm-hmm. face aux mauvais vieux, ce vieux qui n'est plus utile à l'économie de nos pays. Et donc ça, c'est très regrettable, et c'est pour ça que les associations qui font partie de Courant d'âge préfèrent l'idée d'être acteur plutôt qu'actif, parce qu'il est important que chacun, même s'il ne peut plus participer à l'économie par son travail, puisse quand même être acteur dans la société, et surtout acteur de sa propre vie, et intervenir sur les décisions qui concernent directement et indirectement sa vie et la vie de chacun.
Oui, parce que dire finalement que les personnes âgées doivent rester actives, c'est dire qu'elles sont obligées d'être rentables en quelque sorte. Or, un être humain a le droit d'être tout simplement sans être rentable et même a le droit de coûter un peu à la société sans que pour ça il soit exclu. Alors bon, d'accord, selon la Commission européenne, on travaille plus longtemps, mais il arrive bien un jour où on passe à la retraite, parce qu'on arrête de travailler. Alors comment est-ce que l'Union européenne envisage cet avenir justement du système des retraites, dont on dit qu'il est en danger à cause du vieillissement démographique ?
Voilà, l'Union européenne a une vision très néolibérale concernant les retraites. La pension légale, comme on la connaît en Belgique, qu'on appelle le premier pilier, n'a plus vraiment la cote aux yeux des dirigeants. L'Union européenne propose plutôt aux États membres de prendre comme exemple le modèle suédois, où là, on fait plutôt la part belle à la capitalisation. Donc ça veut dire la retraite par capitalisation, c'est l'équivalent du troisième pilier en Belgique. C'est ce qu'on appelle le régime individuel. C'est le capital que chacun, donc qui en a les moyens, peut se constituer grâce à une épargne-pension, un placement financier ou dans un fonds de pension, par exemple.
On va peut-être rappeler pour nos éditeurs la structure de la pension en Belgique, les quatre piliers, justement. Donc le premier pilier, c'est cette pension légale qu'on a grâce à son travail, sa carrière. Alors le deuxième pilier, c'est tout ce qu'on a par rapport à l'entreprise.
Donc on
reçoit une assurance groupe, comme on dit. Le troisième pilier...
Donc c'est comme on la disait, retraite par capitalisation.
Voilà, donc chacun se fait sa petite épargne pension à soi. Et on va préciser que c'est encouragé au niveau fiscal.
Au niveau fiscal par les États, oui. Et donc le premier pilier, c'est un pilier beaucoup plus égalitaire, puisque c'est les personnes actives qui contribuent à financer les pensions des retraités d'aujourd'hui. Tandis que ce troisième pilier, si on n'a pas la chance, les moyens d'avoir un bon salaire, un métier toute sa vie, et de quoi mettre de côté durant sa période d'activité, les malchances de toute une vie sont renforcées une fois qu'on arrive à la pension, puisqu'on se retrouve encore démunis, fragilisés, et ceux qui ont les moyens de mettre de côté, de prévoir, parce qu'ils ont beaucoup de rentrées pendant qu'ils sont professionnels, qu'ils ont pendant leur carrière, eux ont la chance de pouvoir une bonne retraite, mais ici encore, on accroît le fossé, les inégalités à l'âge de la retraite avec ce troisième pilier.
Oui, finalement, donc dire que le premier pilier n'a plus la cote et n'a plus d'avenir, c'est exclure encore toute une partie de la population
tout
maintenant et dans l'avenir.
Quoi. Oui, c'est la promesse de gens toujours plus fragilisés dans la vieillesse. Mm-hmm. Et puis, il faut aussi ajouter que le régime de la retraite par capitalisation, c'est un régime, donc on l'a dit, inégalitaire, mais aussi qui est financièrement douteux. Parce que ce régime par capitalisation, chacun essaye d'avoir un rendement intéressant pour son épargne, et donc une grande partie des richesses des retraités les plus favorisées sont assurées par la spéculation aux dépens de l'économie réelle. Hein. Vous savez, aujourd'hui on parle des fonds de pension qui investissent dans l'accaparement des terres dans le sud, en défaveur des paysans déjà pauvres du sud, ou dans les bulles immobilières en Californie aujourd'hui ou en Espagne hier. Donc tout ça déstabilise et détricote l'économie aujourd'hui. Donc c'est vraiment pas une solution.
Et alors, est-ce qu'il y a moyen de promouvoir, de garder ce premier pilier en état ?
Bien, c'est possible. Pour dire que oui.
Il y en a pour dire que oui.
Et on ne les entend pas beaucoup. Voilà. Et c'est bien dommage. Et Bernard Friot, qui est un économiste et un sociologue français, l'explique. Lui, il dit, ce qui compte, ce n'est pas le nombre d'actifs par rapport à la population totale ou le nombre de retraités par rapport à la population totale, mais la productivité. Il dit croire qu'aujourd'hui, parce qu'il y a moins d'actifs par pensionné ou par retraité, on ne saura plus financer les retraites. C'est un peu comme croire qu'au début du 19e siècle, quelqu'un aurait dit « Ah, fin du siècle, il n'y aura plus que 3% de paysans, d'agriculteurs en France et en Belgique, donc on va mourir de faim ». C'est une très belle image. C'est faux. Ce qu'il faut regarder, c'est la productivité. Et aujourd'hui, on remarque qu'on vit dans des états très productifs, où il y a énormément de richesse, et donc si on a la volonté politique, il y a l'argent pour financer les retraites légales et le premier pilier.
On va voir après la deuxième pause musicale qu'il n'y a aussi pas que les retraites, que les richesses financières, mais qu'il y en a aussi bien d'autres parmi les personnes âgées. Alors le grand classique qu'on ne pouvait pas éviter, c'est Jacques Brel et les vieux en public cette fois.
Ou alors seulement parfois du bout des yeux. Même riches, ils sont pauvres. Ils n'ont plus d'illusions, ils n'ont qu'un cœur pour deux. Chez eux, ça sent le thym, le propre, la lavande et le verbe d'antan. Que l'on vive à Paris, on vit tous en province. Quand on vit trop longtemps, et ce d'avoir trop ri, que leur voix se lézarde quand ils parlent d'hier, et d'avoir trop pleuré, que des larmes encore leur perlent aux paupières. Et s'ils tremblent un peu, est-ce de voir vieillir la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui dit je vous attends. Les vieux ne rêvent plus, leurs livres sans sommeil, leurs pianos sont fermés, le petit chat est mort, le muscat du dimanche ne les fait plus chanter. Les vieux ne bougent plus, leurs gestes ont trop de rides, leur monde est trop petit. Du lit à la fenêtre, puis du lit au fauteuil, et puis du lit au lit. Et s'ils sortent encore, bras dessus, bras dessous, tout habillés de rêve, c'est pour suivre au soleil l'enterrement d'un plus vieux, l'enterrement d'une plus laide, et le temps d'un sanglot oublié toute une heure, la pendule d'argent qui ronronne au salon.
Voilà, Jacques Brel, une certaine vision de la vieillesse, peut-être un petit peu défaitiste, mais on est là pour dire le contraire, justement. Donc on parlait, Jean-Yves, de cet auteur, Bernard Friot, qui a écrit un livre qui s'appelle « L'enjeu des retraites », qui conteste, lui, cette vision fataliste, disant qu'on ne pourra plus payer les retraites dans l'avenir, et qui propose de voir les choses autrement, finalement.
Oui, et je vous encourage à lire cet ouvrage parce qu'il y a beaucoup d'arguments qui sont apportés contre la vision que les politiques nous servent constamment. Et donc, par exemple, il dit qu'il n'y a qu'à comparer les économies contemporaines comme l'Europe ou le Japon, où il y a une population vieillissante par rapport aux pays où il y a une population jeune. On voit bien qu'il y a plus de productivité et de richesse dans ces pays où il y a une population vieillissante. Donc, on ne voit pas pourquoi il y aurait un problème à financer les retraites. Il dit donc qu'un rapport démographique n'est pas un rapport économique. Il dit aussi que la part de personnes actives reste la même depuis les années 60 dans un PIB en constante augmentation. Il rappelle aussi que les années 60, c'était une période de plein emploi, dit-on, mais plein emploi des hommes, et que finalement les chiffres de l'emploi restent fort les mêmes des années 60 à aujourd'hui. Et alors, évidemment, il dit que c'est un choix politique, qu'on a déjà assumé une croissance de retraités dans la part de la population plus grande, et qu'aujourd'hui encore, il n'y a pas de raison concrète et budgétaire de dire que ce n'est pas possible de financer les retraites.
Oui, et un exemple, c'est tout cet argent qui est consacré aux avantages fiscaux pour le troisième pilier, donc pour la retraite par capitalisation, qui pourrait être utilisé pour financer le premier pilier.
Voilà. Exactement.
Alors, on va dire aussi que la richesse financière, c'est une chose, mais les personnes âgées, même les personnes en général, apportent autre chose à la société que uniquement de la richesse financière.
Oui, évidemment. Et Vivre Ensemble le dit et le rappelle souvent, l'importance des volontaires dans la société. Plus particulièrement, on remarque que les personnes âgées, les seniors, les pensionnés, sont nombreux à être actifs volontairement. On estime qu'ils sont au moins 40% de la population, écoles de devoirs, même des seniors en entreprise, dans les structures sportives, dans les quartiers,
dans les
comités
aussi,
de quartier.
Hein.
Oui, voilà. Puis tous ceux dont on ne comptabilise pas comme volontaires, mais qui sont actifs dans le voisinage, dans le quartier, avec la famille, qui gardent leurs petits-enfants. Toute cette richesse-là est investie dans les liens sociaux, dans l'économie réelle, sans être comptabilisée, évidemment, dans le PIB. Mmh. Et donc, finalement, on assiste aujourd'hui à une réussite de la retraite. Des gens libérés du travail qui peuvent choisir comment ils vont s'investir dans la société. Et ça, justement, c'est peut-être une réussite que l'idéologie actuelle n'ose pas vraiment admettre.
Il ne supporte pas. Voilà, on va vous inviter donc non seulement à lire le livre de Bernard Friot, mais si vous n'avez pas le temps, vous pouvez lire l'excellente analyse qu'a rédigée Jean-Yves, qui est sur le site internet de Vivre Ensemble, www.vivre-ensemble.be. Et on vous propose aussi, pour élargir la réflexion, de lire le dossier de Vivre Ensemble qui va paraître incessamment sous peu, qui s'appelle « La pauvreté n'a pas d'âge », donc le dossier de la prochaine campagne de Vivre Ensemble. Voilà, merci beaucoup Jean-Yves pour cette nouvelle analyse, on espère qu'il y en aura d'autres. Et chers auditeurs, soyez attentifs aux prochaines émissions d'RCF, on reviendra sur le sujet des personnes âgées, de la retraite et de la place des personnes âgées dans la société. À très bientôt.